Un jour, un livre, un auteur, parler de culture, de livres dans la bonne humeur tout en étant sérieux, c'est le défi que vous relevez chaque semaine, Diego Arrabal et Philippe Noni. Bonjour.
Bon, eh oui, on a failli se couper la parole. Bonjour
Eh
Diego
oui, bonjour les
Arrabal.
deux
Bonjour
Philippe.
Philippe.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ma définition?
Ah oui, tout à fait.
Oui. Ah.
Oui, toujours. De toute façon, on est toujours d'accord avec
Bah,
vous. Ah ouais, on a intérêt d'ailleurs,
on
sinon
a
vous nous
intérêt,
coupez la
sinon on est
parole.
viré de la radio. Alors, c'est moi qui ai
C'est
les
vrai.
boutons, je peux vous couper la parole.
Eh
Regardez, regardez,
oui.
regardez. Voilà. Et vous
Et
parlez plus. Et
là, on
voilà.
parle plus, vous voyez. Donc,
Ouais. Bon, ceci dit, vous la coupez pas assez à Philippe, hein, parce que
non.
qu'est-ce qu'il est bavard.
Non, vous avez remarqué, du Rabal, c'est à moi qu'il a coupé la parole, pas à vous.
Allez, un jour, un livre, un auteur. Oh, bien sûr, on accueille votre invité cette semaine.
Alors oui, mon invitée, Anne Waddington, que nous avons déjà reçue sur cette antenne plusieurs fois, et que je reçois aujourd'hui pour Meurtre à Toulouse aux éditions La Geste, la collection Moisson Noire. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien, franchement. Je suis dans la montagne et il fait 9 degrés.
Ah ben écoutez, ici, on n'a pas encore la neige, mais ça ne saurait tarder.
Ah, d'accord.
On est aussi dans la montagne, il ne fait pas très chaud, mais on est beaucoup plus bas, je pense, que vous. Voilà, donc vous connaissez un peu le principe de l'émission, donc je
Oui.
vais lire un petit texte que m'a suggéré la lecture de votre roman, Meurtre à Toulouse, et puis nous aurons l'occasion de développer à partir de là. Sur ce qui vous a amené à écrire ce roman et puis un certain nombre d'autres éléments.
D'accord.
Donc on va parler de Meurtre à Toulouse de Anne Waddington. Sacha, jeune femme écorchée, qui n'a pas réussi à dépasser la mort de sa mère, puis celle de son père, et qui souffre d'un syndrome d'abandon, pense avoir trouvé le travail idéal pour calmer sa misanthropie. Réceptionniste de nuit dans un hôtel de Toulouse. Ancienne officier de police judiciaire, la brigade des mineurs de Marseille, elle goûte enfin à une paix relative, jusqu'au soir où débarque, pardon, en compagnie d'un homme riche, Sophie, son ancienne amante qu'il a larguée des années auparavant. Incapable de se contrôler, Sacha poignarde sauvagement son ancienne maîtresse alors qu'elle a drogué le compagnon de celle-ci, puis maquillé la scène de crime pour incriminer ce dernier. Interrogé par le lieutenant Lavore de la PJ, celui-ci insinue qu'il la soupçonne, mais qu'une agence occulte la protégera aussi longtemps qu'elle acceptera de mener une enquête discrète autour des circonstances de la mort suspecte d'une journaliste, Anne-Lise Lacoste. Anne Waddington accroche d'emblée ses lecteurs par son style incisif. L'histoire se déroule à tombeau ouvert, au sens premier du terme, tant les cadavres s'amoncellent sur la route de Sacha. En fine feuilletoniste, l'auteur multiplie les pistes, les personnages, et nous entraîne dans les méandres de faux-semblants et de complots. Bousculée, victime de traquenards dont elle ne réchappe que par son inébranlable volonté de vaincre, Sacha ira de découverte en découverte jusqu'à ce dernier rendez-vous mortel. Réussira-t-elle sa périlleuse mission ou rejoindra-t-elle ce père et cette mère qui lui ont tant manqué? Meurtre à Toulouse, Anne Waddington, édition La Geste, pardon, collection Moisson Noire. Alors Anne, voilà bien un roman plein de cadavres, mais aussi qui rappelle certaines séries ou certains films tels que Nikita, entre autres, avec cette jeune femme qui et prise sous l'aile d'une agence, entre guillemets, un peu occulte. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce scénario-là, très polar, mais aussi surtout un peu d'espionnage?
Enfin, d'espionnage, non.
Enfin,
En
dans la
fait,
forme.
ouais, c'est ça. Mais en fait, bon, cette agence, on l'a déjà trouvée, on l'a déjà vue dans Obsession, qui est paru il y a 2 ans.
Oui.
Donc c'est une agence, je dirais, un peu comme une pieuvre.
Mmh.
En fait, alors déjà, Sacha, c'était pas la brigade des mineurs, c'est la brigade des mœurs. C'est important.
Ah oui.
Lorsqu'il se passe dans ce livre. Moi, j'avais envie, au départ, de toute façon, j'avais envie d'aborder deux scandales, enfin moi ce que j'appelle des scandales, qui est le scandale sanitaire autour de la maladie de Lyme et l'omerta sur l'existence de réseaux pédophiles. Voilà, donc en fait, je sais pas comment ça m'est venu, Sacha. Alors Sacha, c'est pas vraiment une tueuse, hein, en fait, elle tue que les méchants, hein, déjà.
Oui.
C'est important quand même.
Oui, disons qu'elle rend justice voilà. De façon un peu abrupte, voilà.
De façon un peu abrupte, mais bon, franchement, à des gens pas très sympathiques non plus.
Oui.
Voilà, donc en fait, je sais pas, je me suis retrouvée embarquée dans une espèce de, pas de road movie, mais... Alors, il y a eu aussi l'histoire de Fréjus, puisque Fréjus, c'est un souvenir que j'ai quand j'étais encore petite. J'avais vu quelques images à la télévision, puis bon, c'était complètement passé à l'arrière de ma tête. Et puis, je suis allée chez une amie dans le Var, et elle m'a emmenée à Fréjus. Et j'ai fait donc les deux sentiers, par le haut, par le bas. Franchement, ça m'a beaucoup frappée, parce que il y a encore des traces importante, hein, des énormes morceaux de rochers. Enfin,
Oui, il reste encore les stigmates de la rupture du barrage de Malpassé. Je reprécise, hein, donc pour nos auditeurs qui seraient beaucoup plus jeunes et que vous, et surtout que moi.
C'est 59, hein, donc pas 59, effectivement.
Oui, c'était en 59, j'étais déjà presque adolescent. Effectivement, c'est une catastrophe qui s'est passée, et il reste les stigmates dans le sens où je pense que à la fois les riverains et les pouvoirs publics ont décidé de garder les traces et de ne pas détruire ce qui est resté de ce barrage, construit un peu à la va-vite visiblement, et surtout construit un peu en dépit du bon sens technique et architectural. Donc vous partez de cette première histoire. Alors en fait, c'est un peu un roman à tiroir. Puisqu'on part d'une première histoire, celle de ce barrage, avec la disparition de personnes qui meurent dans la rupture de ce barrage, et puis des personnages qui revivent, c'est-à-dire qu'ils sont censés être morts, et puis tout d'un coup on découvre qu'ils sont bien vivants ailleurs et sous une autre identité. Et puis vous abordez la maladie de Lyme. Est-ce que vous, juste en quelques mots, nous expliquez pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est la maladie de Lyme, d'en dire quelques mots?
Alors la maladie de Lyme, en fait, c'est une bactérie. Le problème, c'est que c'est une bactérie qui a une grande famille. Donc je vais pas développer. Qui est amenée par la tique. Piqûre de tique, si les gens sont intéressés, il y a un excellent livre sur lequel je me suis appuyée, qui est La vérité sur la maladie de Lyme de Christian Perron. En fait, donc je ne vais pas. Mais c'est une maladie. Comment dire, la Borrelia. Alors, il n'y a pas que le beurre d'enfer, hein, mais la Borrelia, elle peut se cacher dans n'importe quel endroit du corps. Elle peut rester.
Latente.
Latente, jusqu'à ce qu'elle se développe. Ça peut donner beaucoup de. Beaucoup de
symptômes différents, des vertiges, des douleurs articulaires, etc.
Voilà, des troubles neurologiques, des maladies auto-immunes, etc. Le scandale, s'il est qu'en France, ça a été comme ça aux États-Unis, c'était fini puisqu'il y a des cliniques spécialisées maintenant aux États-Unis pour soigner Lyme. Mais en France, comme dans d'autres pays d'Europe, il y a eu une véritable chasse aux sorcières contre les médecins qui disaient soigner Lyme, le Lyme chronique. Il y a eu vraiment des suspensions, des médecins qui ont été déconventionnés. Enfin bon, j'en passe. Voilà. Moi, j'ai des amis qui ont la maladie de Lyme, qui ont été obligés de chercher des traitements aux États-Unis ou des traitements en Allemagne. Parce que en Allemagne, c'est bon, ils travaillent beaucoup aussi avec les plantes. Et aucun médecin n'a jamais été condamné hein, pour soigner Lyme en Allemagne. Y a l'histoire du test, des deux tests. Hein. Y a deux tests pour repérer si on a la maladie de Lyme, mais deux tests qui sont pas bons du tout, particulièrement le premier qui est le test ELISA, qui en fait a été c'est le moins performant de tous. Bon, je vais pas rentrer dans les détails.
Oui, oui, parce que c'est pas non plus.
Voilà, ça serait beaucoup trop long, donc si les gens s'intéressent.
Oui, oui, non, c'était simplement pour que nos auditeurs aient une idée de ce qu'est la maladie de Lyme pour ceux qui ne connaissaient pas.
Et moi, ce qui m'a amené juste deux secondes, donc moi j'étais psy hein, dans une autre vie. Maintenant, j'ai pris ma retraite, mais il nous est arrivé, je travaillais dans les urgences psy, et un jour nous est arrivée une femme qui était en errance médicale depuis 6 ans. Qui n'en pouvait plus, qui a fait une tentative de suicide. Et il se trouve que 3 jours après, un médecin un peu moins, je dirais pas l'adjectif que d'autres, a envoyé pour faire un test donc à l'étranger. Et la réponse a été qu'elle avait la maladie de Lyme. Et des gens qui sont en errance médicale comme ça, il y en a des milliers. Voilà, c'est tout. C'est ce qui m'a interpellé beaucoup. Voilà.
D'accord. Et, voilà. Et pour en revenir au roman, donc votre héroïne, elle est quand même extrêmement brisée par son passé, en fait. Hein.
Oui.
Quand elle est enfant, elle perd sa mère d'un cancer. Et puis, donc, quelque chose qu'elle vit très, très violemment et très mal. Mmh. Et puis, quelques années après, elle perd son père. Qui lui avait dit qu'il ne la laisserait jamais tomber, et puis il meurt assassiné. Son père est officier de police, et il meurt assassiné.
Oui.
Parce que ça, vous ne le laissez entrevoir, mais vous ne le développez pas. Est-ce que c'est la mort de son père qui va la pousser vers la police et travailler dans les mœurs?
Je pense que inconsciemment, on peut imaginer que oui, c'est une façon de se rapprocher sans se rapprocher, quoi, hein, parce que elle lui en veut, elle considère que c'est une trahison. Donc c'est possible, effectivement, oui.
Ouais. C'est quand même un personnage qui est un peu comme un bulldog, c'est-à-dire qu'à la fois elle a des réactions vives, pour ne pas dire brutales parfois, et puis surtout elle ne lâche jamais, quoi. Elle a saisi une opportunité dans une enquête, et elle va continuer jusqu'au bout, ce qui va lui valoir d'ailleurs d'être sacrément malmenée, et puis de quitter la police à cause de cela, quoi, parce qu'elle a elle ne supporte pas d'avoir été malmenée.
Elle ne supporte pas l'injustice, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Donc effectivement, c'est ce qui l'a amenée à quitter les mœurs, en fait.
Mmh. Et c'est quand même un personnage torturé. Hein.
Oui, c'est un peu une écorchée vive, oui.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de, lien avec votre propre personnalité, mais comment on écrit un personnage comme ça quand on est auteur?
Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Je peux pas dire. Alors peut-être que mon moi profond, je suis une tueuse, j'en sais rien. Mais ça m'est venu comme ça. Peut-être aussi parce que je suis assez révoltée de tout ce qui se passe en ce moment. Je saurais pas dire. Mais j'ai l'impression que c'était préécrit dans ma tête. Il fallait aller jusqu'au bout et c'est un personnage qui, moi, m'est très sympathique. Et en fait, j'ai changé la fin. Au début, je vais pas le dire parce que je veux pas spoiler, comme disent les jeunes. Mais j'ai changé la fin à cause de la mort prématurée de mon chien. Voilà.
Ah.
Donc voilà.
On laissera les lecteurs découvrir ce qui s'est passé.
C'est
un personnage quand même très attachant malgré ce ses différents côtés, je
Oui.
dirais, abrupts, hein, on va le dire comme ça. Elle est très brute de décoffrage, quoi, quand même. Mais c'est quand même un personnage attachant, même si parfois on se dit, bon, cette réaction, c'est, j'aurais pas aimé être en face dans le cadre de cette réaction. Mais malgré tout, on s'attache à ce personnage. C'est un personnage, qui, malgré tout, malgré sa puissance, est quand même assez fragile.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est sa vulnérabilité, qui la rend attachante. Et au fond, c'est quelqu'un qui a aussi des qualités, qui aime la justice, qui est en recherche d'amour, qui est capable d'en donner aussi, même si, bon, elle a été un peu,
Échaudé.
oui, voilà, c'est ça, c'est le mot exactement. Donc oui, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est la première fois que j'écrivais un roman, je sais pas si tu as vu, mais j'écrivais un roman avec je.
Oui, elle raconte son histoire.
Oui, tout à fait. Ouais,
Ouais.
c'est ouais.
Oui,
Et, ouais.
vous étiez là dans la logique du roman auto-centré, c'est-à-dire que le narrateur est en même temps celui qui est l'acteur de
Oui,
ce qui se passe.
c'est ça qui m'a entraînée en fait. Je crois que elle a tenu mon, je dirais pas mon stylo, mes
Presque.
doigts sur le clavier.
Elle s'est immiscée à l'intérieur de l'ordinateur pour écrire,
Ouais, je crois.
pour
Oui,
raconter sa vie.
je crois quelque chose. Oui.
Alors moi, ce que je
Oui.
trouve intéressant aussi dans votre roman, c'est et je trouve que ça fait vraiment feuilleton, quoi, mais au sens qu'on lui donnait au 19e siècle, c'est-à-dire d'une histoire qui est à tiroir, qui a des rebondissements systématiques, où on part sans aller dans un sens à un moment donné. On fait fausse route et puis on se retrouve à aller totalement différemment et qu'on ne s'y attendait pas. On est
Oui.
vraiment dans ce fonctionnement-là. Est-ce que
Oui.
c'est vraiment, ça vous semblait être la meilleure façon de traiter cette histoire?
Je ne sais pas du tout. Ça m'est venu comme ça. Donc je peux pas dire. Ce que je ne veux pas, c'est faire des fausses pistes dans le sens où il y a des livres où comment dire il y a un personnage qu'on voit presque pas et puis en fait à la fin on nous
Oui.
dit que c'est celui-là qui a fait ce qu'il fallait pas.
Oui, le Deus
Voilà.
ex machina qui apparaît
Ouais.
tout d'un coup, alors que,
Voilà.
ouais, bon,
Ça,
généralement,
voilà. Ça, j'aime pas trop.
voilà, ben, c'est pas ce qui est le plus intéressant comme roman,
Non,
tout d'un coup,
non, non,
parce que
oh, non.
l'idée, dans un roman, c'est aussi, ou dans un roman policier, c'est aussi que le lecteur, se prenne au jeu et nous
Oui.
suive, en sachant très bien qu'on va le perdre.
Oui.
Mais que on ne le perd pas gratuitement, c'est-à-dire que ce qu'on il va se perdre, mais il va y gagner quelque chose.
C'est ça. Mais en fait, c'est un petit peu, si je peux faire une comparaison, c'est un petit peu Sacha, elle suit un jeu de piste. Elle est un peu comme un chien de chasse. Et
C'est un
puis,
fin
à un moment...
limier.
Oui, c'est ça. Elle suit une piste et tout d'un coup, il se trouve qu'il y a une autre odeur qui arrive. Donc, elle va y aller parce que, quelque part, ça a un rapport avec la première odeur. Enfin, voilà.
Oui, et puis comme dans les feuilletons, au sens qu'on lui donnait au 19e siècle, on a aussi des personnages complètement décalés. Je veux dire, elle va rencontrer un club de arsenic et vieilles dentelles, bon, je ne dirai pas plus, qui va travailler à redresser des torts, mais d'une façon assez machiavélique. On va se retrouver avec effectivement des gens puissants qui vont essayer d'empêcher l'héroïne d'arriver au bout, etc. Donc on est vraiment dans une belle histoire qui mène le lecteur et qui entraîne le lecteur dans une course-poursuite et qui lui fait découvrir pas mal de choses, en fait.
Oui. Après, c'est aussi mon mantra, hein, c'est que moi, je découvre des choses et j'aime bien faire découvrir des choses au lecteur. Ce que j'ai découvert, je fais la savante, hein, mais au départ, je ne sais pas. Mais je découvre, je vais chercher. Je suis un peu comme Sacha, pas jusqu'au bout quand même. Mais
j'espère.
Quand je tire un fil, je le tire jusqu'au bout.
Oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Je vais regarder jusqu'au bout ce qu'il en est.
Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cette interview et avec grand plaisir d'avoir parlé de votre roman Meurtre à Toulouse. Alors, pourquoi Meurtre à Toulouse ? C'est parce que c'est le meurtre inaugural ?
Non. Alors, Meurtre à Toulouse, il faut demander à l'éditeur.
Ah. Bon, d'accord.
Je crois que c'est le sous-titre est de moi. Parce que le sous-titre, c'est Au trouble.
D'accord, ouais. Ok.
Voilà. Donc, je pense que c'est une politique de la geste, parce que je crois qu'ils ont fait des meurtres à Pau, ils ont fait voilà.
D'accord, oui, ok, d'accord. Parce que voilà. C'est vrai que mis à part le meurtre inaugural qui se déroule à Toulouse, puisque c'est là où elle est réceptionniste de nuit dans un hôtel. Je veux dire, tout le reste de l'histoire se passe entre Fréjus, la Côte Basque, plein d'autres endroits.
À la fin, c'est vraiment Toulouse.
Oui, à la fin, ça se termine à Toulouse. Mais je veux dire que c'est quand même, vous nous emmenez vraiment dans presque un tour de France. Pas tout à fait, mais presque un tour de France.
Oui, vous faites du tourisme dans le sud.
Enfin, du tourisme un peu sanglant quand même.
Un petit peu, pas tant que ça.
Ah bon,
mais écoutez, pas tant que ça.
Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coups de couteau ou de coups de feu.
Non.
Les morts sont souvent un peu plus soft que ça, mais c'est quand même des morts.
Oui, c'est quand même des morts, oui, tout à fait. Bah, on ne peut pas faire un thriller sans morts.
Ah
quand même,
oui, c'est difficile, hein, c'est difficile.
C'est pas faire.
Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, Anne, d'avoir été notre invitée ce matin et de nous avoir parlé de Meurtre à Toulouse aux éditions La Geste dans la collection Moisson Noir. Eh bien, au plaisir de vous retrouver. Puis on souhaite bon vent à ce roman et bonne signature à vous au fur et à mesure des jours et des mois qui vont passer. À bientôt, Anne. Au revoir.
Merci de l'invitation. Au revoir.